Bonjour à tous. Ce matin, j'ai eu le privilège de prendre mon petit déjeuner avec Michel ici présent. Alors que je buvais mon café, il m'a partagé ses idées sur le psaume 91. Je crois qu'il l'a aussi fait avec vous dimanche dernier. Il y a une chose que j'ai reconnue dans ce qu'il m'a partagé, et qui vous a aussi partagé, que font ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie? Et cela a évoqué un souvenir, une discussion que j'ai eue avec un directeur de colonie de vacances, et on est en plein dedans. Et il a dit, face aux difficultés, aux défis, aux problèmes, à tout ce que ça comporte en charge de travail, il a dit, mais comment font ceux qui n'ont pas Dieu? Je crois qu'on a un réel privilège d'appartenir et de pouvoir faire confiance à Dieu. Alors ce matin, nous allons poursuivre avec notre série d'été, série consacrée à quelques psaumes qui mettent tous l'accent sur un ou plusieurs attributs ou caractères de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter quelques instants sur un psaume de David, le psaume 11, psaume qui ne parle pas à Dieu, qui ne s'adresse pas à Dieu, mais qui parle de Dieu. On ne connaît pas le contexte historique exact de ce psaume, mais on sait que David avait fort à faire avec des ennemis, dont beaucoup d'ennemis au sein de sa propre famille, qu'il s'agisse de son prédécesseur, le roi Saül, son beau-père, ou encore d'Absalom, son troisième fils, lorsque le royaume était profondément troublé et que les institutions semblaient vaciller. Et c'est Myriam qui va nous faire la lecture de ce psaume dans la version Semeur. Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit? Ou selon d'autres versions, quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Voilà la question centrale que pose ce psaume et auquel il répond. Question d'actualité du temps de David, mais aussi question d'actualité pour nous aujourd'hui dans notre société contemporaine. Il m'a paru important de prendre quelques instants pour évoquer les fondements dont il est question ici dans ce texte. Fondement qui devrait en principe permettre à la société de vivre dans l'ordre, dans la justice et dans la paix. Mais voilà, ces fondements, nous dit le psalmiste, sont renversés. On peut évoquer le fondement moral. À titre d'exemple, on peut citer la relativisation du bien et du mal que l'on peut observer autour de nous. Mais il n'y a rien de neuf sous le soleil. Le prophète Ésaïe disait en son temps: Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ésaïe 5, verset 20. On peut évoquer le fondement de la justice. On peut parfois avoir le sentiment que certains échappent aux conséquences de leurs actes, qu'il y a des inégalités de traitement et que le méchant semble triompher. Mais là encore, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Nombreux sont les auteurs de la Bible, et en particulier dans l'Ancien Testament, qui en ont fait le constat. Les auteurs des psaumes, de l'Ecclésiaste, les prophètes Jérémie, Habacuc ou encore Malachie. Le roi Salomon avait d'ailleurs dit: C'est une vanité qui se produit sur la terre, qu'il y a des justes qui sont traités selon l'œuvre des méchants et des méchants qui sont traités selon l'œuvre des justes. Ecclésiaste 8, verset 14. On peut aussi évoquer les fondements de la vérité. À l'heure des réseaux sociaux, la désinformation, la propagation de fausses informations, les fameuses fake news, ou même la réécriture de l'histoire, on le vend en poupe. À tel point qu'il y a maintenant des émissions de télévision qui décryptent le vrai du faux. Mais là encore, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Le prophète Ésaïe disait également: Aussi, le droit recule et la justice est loin de nous. La vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut y accéder. La vérité a disparu et celui qui se détourne du mal se fait piller. Ésaïe 59 au verset 14. On peut aussi évoquer les fondements spirituels. Alors si certains sont actuellement en recherche de Dieu et on s'en réjouit, beaucoup sont indifférents, le rejettent ou nient même son existence. Mais selon la formule consacrée, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Lorsque la maison d'Israël et de Juda était infidèle à Dieu sous la période de Jérémie, Dieu a non seulement été renié, mais aussi considéré comme inexistant. Jérémie 5, 12, Dieu n'existe pas. On peut aussi évoquer les fondements de la famille. Alors la Bible présente la famille au sens traditionnel comme un lieu de transmission de l'amour, de la foi et de la sagesse. Je me base sur des textes comme Deutéronome 6 ou Éphésiens 6. Mais elle reconnaît cependant que les relations familiales peuvent être gravement blessées, brisées, détruites à cause du péché. Alors que la famille devrait être un havre de paix, un lieu de sécurité, elle devient un lieu de haine ou même un lieu de pratiques innommables. Mais là encore, l'histoire est un perpétuel recommencement. La Bible n'enjolive pas la société, mais elle la dépeint telle qu'elle est. Et on peut donc penser à des récits tels que Lot et ses filles, ou encore à celui d'Amnon et de sa sœur Tamar. Alors en effet, le constat est sans appel. La société est gangrénée par le péché depuis la nuit des temps, et ses fondements vacillent. Alors la question est posée, quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste ? Le roi David semble répondre ici à la proposition de ses amis, de ses conseillers, qui lui suggèrent fortement de fuir comme un passereau et de se réfugier dans les montagnes. Alors si quelquefois la fuite est conseillée, même salutaire, David considère ici que ce n'est ni le lieu ni l'heure. Il va même faire preuve d'incompréhension, de stupeur, de sidération. Il va dire « Comment pouvez-vous me dire ?» C'est comme s'il disait « Comment osez-vous tenir de tels propos ? Vous vous rendez compte ? Vous êtes sérieux ? Je n'en reviens pas, je reste sans voix. » Et David va répondre par une confession de foi, par une certitude qu'on trouve au verset 1. « C'est en l'Éternel que je recherche un refuge. » Et j'en viens à mon premier point. La foi du juste refuse de céder à la panique, car Dieu est un refuge en toutes circonstances. La foi du juste refuse de céder à la panique, car Dieu est un refuge en toutes circonstances. Alors dire que Dieu est un refuge en toutes circonstances signifie qu'il est un lieu de sécurité, de protection, de paix et de secours H24. C'est la Bible qui le dit. Autrement dit, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, selon la formule de Pangloss dans l'œuvre de Voltaire. Ou pour ceux qui ont la référence, « Je vais bien, tout va bien ». On passe donc au point 2. Enfin non, je vais un peu vite. Et je redeviens sérieux. Alors en effet, Dieu nous assure sa présence continuelle, comme on peut le lire au psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Dieu promet aussi sa protection à ceux qui se confient en lui. C'est ce qui vous a été partagé dimanche dernier avec le psaume 91, les versets 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Dieu nous promet aussi de nous soutenir dans les moments de faiblesse. C'est ce qu'il va dire au prophète Ésaïe. Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41:10. Et enfin, Jean 16:33. Dieu donne la paix au milieu des épreuves. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Finalement, refuge en Dieu ne signifie pas vie sans souffrance, sans difficulté, sans épreuve. Et tout ne va pas comme dans le meilleur des mondes. Mais alors comment concilier cela avec les versets des psaumes, du psaume 91, 9 et 10 qui dit « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Le mot « malheur » ne signifie pas forcément qu'aucune difficulté ne surviendra. Des personnes fidèles comme Job, David, Paul ou même Jésus ont connu la souffrance ou la souffrance extrême. Le psaume 91 affirme plutôt que rien ne peut arriver en dehors de la souveraineté de Dieu et que le mal n'aura pas le dernier mot sur ceux qui lui appartiennent. Dieu protège parfois en empêchant une épreuve, parfois en donnant la force de la traverser et parfois en transformant une épreuve en bien. Le mal ultime ne triomphera pas, mais si un croyant traverse des épreuves ou meurt, il demeure en sécurité entre les mains de Dieu. Sa destinée éternelle est assurée en Christ. Par sa mort et sa résurrection, Jésus est le refuge ultime. En Christ, le plus grand danger est vaincu. Le véritable ennemi n'est pas la maladie, les épreuves, les accidents, mais la condamnation et la mort éternelle. Et Jésus nous délivre de ce mal ultime, comme c'est affirmé dans l'épître de Paul aux Romains. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Donc Dieu est un refuge en toutes circonstances. Face à la peur, il nous accorde sa paix. Face au danger, il nous protège selon sa volonté. Face à la souffrance, il nous console. Face au doute, il nous guide par sa parole. Face aux épreuves, il demeure fidèle. Et enfin, face à la mort, il nous offre l'espérance de la résurrection en Christ. J'en arrive à mon deuxième point. La foi du juste élève les yeux vers Dieu, car Dieu est souverain. La foi du juste élève les yeux vers Dieu, car Dieu est souverain. Ce psaume nous rappelle plusieurs vérités, dont une vérité essentielle qu'on trouve également dans le psaume 115. Dieu est sur son trône et il fait tout ce qu'il veut. Et c'est ce qui est écrit en substance au psaume 11, verset 4, quand il est dit « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux ». Vérité reprise par le prophète Habacuc, dans Habacuc 2:20, quand il dit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui ». Autrement dit, depuis le ciel, Dieu exerce son autorité et appelle toute la terre à faire silence devant lui. Pourquoi ? Mais parce que personne ne peut prétendre à son indépendance vis-à-vis de lui, ni le juste, ni le méchant dont il est question dans ce psaume. Mais qui sont donc ce juste et ce méchant dont il est question ici ? Qu'est-ce qui les caractérise ? Comment est-ce qu'ils sont décrits dans la Bible ? Le juste est décrit comme étant fidèle à Dieu. Il place sa confiance en lui, observe ses commandements et cherche à lui être agréable. Le juste est décrit comme agissant avec droiture avec les autres, en étant honnête, en pratiquant la justice, en protégeant les faibles, en refusant la corruption, la violence sous toutes ses formes. Mais le juste n'est pas sans péché. Juste ne signifie pas parfait. Abraham, David, Job étaient considérés comme justes, bien que pécheurs et imparfaits. Ils étaient considérés comme justes à cause de leur foi, de leur fidélité et de leur capacité à se repentir. Le juste, on l'a déjà évoqué, peut être amené à souffrir. Et enfin, le juste, selon le psaume 1, ressemble à un arbre verdoyant qui porte du fruit et tire sa substance d'un cours d'eau. Image qui nous renvoie à d'autres textes bibliques dont je vous fais la lecture. Dans Ésaïe 12, on peut lire « Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. » Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Dans Jérémie, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Dans Jean, chapitre 7, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et enfin, dans le livre de l'Apocalypse, « Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Quant au méchant, ce n'est pas seulement quelqu'un qui commet des fautes. Le juste également en commet. C'est celui qui rejette Dieu et qui adopte un vie contraire à la justice. Le méchant rejette Dieu et nie son existence. Il est appelé insensé ou fou dans le psaume 14. Le méchant pratique l'injustice en abusant de son pouvoir, en trompant, en volant, en opprimant et en exploitant les faibles, en méprisant le droit. Il est orgueilleux, s'élève contre Dieu, refuse ses avertissements et se croit autonome. Le méchant parle avec tromperie. Le mensonge, la calomnie et les paroles destructrices sortent de sa bouche. Dans le psaume 10, au verset 7, on peut lire « La bouche du méchant est pleine de malédictions, de tromperies et de malheurs. » Le méchant refuse de se repentir. Le juste peut tomber, mais revient vers Dieu, alors que le méchant persiste et signe. Il se révolte et refuse la correction. Le méchant semble avoir du succès, ce qui trouble les croyants. On voit ça dans le psaume 37 et 73. Mais cette prospérité, nous dit la Bible, est passagère. Alors en résumé, le juste place sa confiance en Dieu, mais le méchant se fie à lui-même. Le juste recherche la justice, le méchant pratique l'injustice. Le juste écoute la parole de Dieu, le méchant rejette les commandements de Dieu. Le juste protège les faibles, le méchant les exploite. Le juste est humble, le méchant est orgueilleux. Le juste recherche la paix, le méchant cherche à faire le mal. Le juste agit dans la lumière, le méchant agit dans l'obscurité, c'est ce qu'on voit au verset 2. Les méchants bandent leurs arcs, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Et enfin, le juste peut tomber, mais il se relève, le méchant persiste dans le mal. J'en viens à mon troisième point. La foi du juste attend la victoire finale, car Dieu est juste dans ses jugements. La foi du juste attend la victoire finale, car Dieu est juste dans ses jugements. Au verset 4 et 5, on peut lire « L'Éternel est dans le palais de sa sainteté, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. » Dieu ne règne pas sur les hommes de façon lointaine et désintéressée en regardant juste du coin de l'œil. L'expression « ses yeux » littéralement deux sources. Ses yeux regardent signifie que Dieu voit tout ce qui se passe sur la terre. Ses paupières sondes évoquent un examen attentif. Dieu ne se contente pas des apparences. Il connaît les motivations, les intentions du cœur de chacun. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Jérémie 17 au verset 10. Dieu connaît parfaitement le cœur des hommes et distingue le juste du méchant, et il juge avec équité. La suite du texte décrit le sort du juste et celui du méchant, et le contraste est saisissant. Il fait pleuvoir sur les méchants du charbon, du feu et du soufre. Il les expose au feu brûlant. Voilà la part qu'il leur réserve. Car l'Éternel est un Dieu juste, un Dieu qui aime la justice. Les hommes droits verront sa face. Le sort du méchant fait penser au jugement de Sodome et Gomorre, quand il est question de charbon, de feu, de soufre et de vent brûlant. Le sort du juste, si je m'en réfère au commentaire de la Bible annoté, fait référence au privilège rare en Orient, celui d'être dans la présence habituelle d'un monarque. Mais pour le méchant, il y a cependant une note d'espoir. La Bible ne présente pas le méchant comme irrémédiablement perdu. Tant qu'il vit, tant qu'il a du souffle, la possibilité de revenir à Dieu reste ouverte. C'est ce qu'on trouve dans Ézéchiel 18 au verset 23. Ce que je désire, est-ce le méchant ? Est-ce que le méchant meurt ? Dit le Seigneur l'Éternel. Non, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ? Je conclus. Quand les fondements sont renversés, nous sommes appelés à nous rappeler que Dieu est un refuge en toutes circonstances, qu'il est souverain et qu'il est le juste dans ses jugements. Qui renverse les fondements ? Le méchant, dit David. Mais avant de chercher les méchants autour de nous, demandons-nous si par notre propre conduite, nous contribuons à bâtir ou à détruire. Nous pouvons tous, par nos paroles et par nos actes, être des démolisseurs en puissance. Dans notre famille, dans notre voisinage, sur les bancs de l'école, sur notre lieu de travail ou encore à l'église. Le psaume 11 invite les croyants à persévérer dans la confiance lorsque les fondements semblent s'écrouler. En gardant les yeux fixés sur le Dieu qui règne, juge avec justice et promet sa présence à ceux qui demeurent fidèles, avec l'espérance d'être un jour dans sa présence. Heureux ceux qui prendront leur repas dans le royaume de Dieu. Amen.